clercite, vincennite, vitrite, collongite, sipalite, aquénite, papite, martonite, bretonite, cadenite, frécite, sulvinite, cyclite, vaillantite, rationite, hyperite, camite, starnite, vitrite, arsine, chloropicrine. C'est ainsi que Joseph vit se lever une eau olivâtre sur la plaine d'Ypres. Dieu ce matin-là était avec eux. Le vent complice poussait la brume verte en direction des lignes françaises, pesamment plaquées au sol, grand corps mou, épousant les moindres aspérités du terrain, s'engouffrant dans les cratères, avalant les bosses et les frises de barbelés. Maintenant, le brouillard chloré rampe dans le lacis des boyaux, s'infiltre dans les abris, se niche dans les trous de fortune, s'insinue entre les cloisons rudimentaires des casemates, plonge au fond des chambres souterraines, jusque-là réservées des obus, souille le ravitaillement et les réserves d'eau, occupe sans répit l'espace, si bien que la recherche frénétique d'une bouffée d'air pur est désespérément vaine, confine à la folie dans des souffrances atroces. Le premier réflexe est d'enfouir le nez dans la vareuse, mais la provision d'oxygène y est si réduite qu'elle s'épuise en 3 inspirations. Il faut ressortir la tête et, après de longues secondes d'apnée, inhaler l'horrible mixture. Et c'est l'intolérable brûlure aux yeux, au nez, à la gorge, suffocante douleur dans la poitrine, une toux violente qui déchire la plèvre et les bronches, amène une bave de sang aux lèvres, et ils sont là, le corps plié en deux, secoué d'âcres vomissements, écroulé, recroquevillé que la mort ramassera bientôt, piétiné par les plus vaillants qui tentent, main au rebord de la tranchée, de se hisser au dehors.
Bonsoir. Notre émission de ce jour est une émission de notre série consacrée à la guerre 1914-1918 à l'occasion de son centenaire. Cette émission s'intéresse plus particulièrement à ce qu'il en fut des gaz de combat, de leurs effets sur les hommes et de leur histoire dans la guerre. Bonne écoute, si l'on peut parler ainsi sur un tel sujet. Le 22 avril 1915, dans les Flandres, dans le secteur d'Ypres, en dépit de tous les accords internationaux, en particulier des conventions internationales de La Haye de 1899 et de 1907, l'armée allemande lança la première attaque au gaz à grande échelle, dite « première opération par vague gazeuse dérivante ». 150 tonnes de chlore à l'état liquide, dans 5730 cylindres en acier pressurisé, sont libérés et portés par le vent vers les positions ennemies. Dans les tranchées françaises, c'est la débandade. Rien n'a été prévu contre la guerre chimique. Les hommes hurlent de douleur, crachent du sang, asphyxiés, aveuglés, ils font des efforts désespérés pour retrouver leur souffle, avant de mourir en lacérant leurs vêtements. Durant l'agonie, leur visage devient verdâtre, se crispe dans une expression monstrueuse, les pupilles exorbitées et striées de sang. On autopsie les morts. Leurs poumons sont de couleur lie de vin. Il en sort à la pression une écume blanchâtre qui remplit les alvéoles. À la coupe, ils apparaissent gorgés de sang, inaptes à toute respiration. Le décès a bien été entraîné par une congestion pulmonaire violente. Le 22 avril et les jours suivants, 5000 meurent ainsi.
Les cimetières militaires, pardon, monsieur le surveillant. Les cimetières, pourquoi le taire? Militaires sont accueillants. Quel que soit le vent, les nuages, les fleurs y poussent fraîches toujours. Pousse dessus la fleur de l'âge, la fleur de l'âge des tambours. Les cimetières militaires, pardon, monsieur le lieutenant. Les cimetières, pourquoi le taire? Militaires sont avenants. Les allées sont larges et sûres, on y trouve silence et peur. Le gazon y est sans blessure, et la visite a peu de frais. Les cimetières militaires, pardon, monsieur le combattant. Les cimetières, pourquoi le taire? Militaires sont déroutants. Et le vieux gardien qui arrose les roses vivantes à ses pieds dit que ça n'est pas toujours rose que de vivre au pied des troupiers. Les cimetières militaires, pardon, monsieur le revenant. Les cimetières, pourquoi le taire? Militaires sont inconvenants. On dira que je suis coupable, on me traînera dans la boue. De la Normandie en Champagne, mais tant pis, j'irai jusqu'au bout. Les cimetières militaires, pardon, messieurs les braves gens. Dessous leur terre cachent mes frères. Braves gens, soyez indulgents.
Ainsi débuta sur le front français l'utilisation des gaz de combat, qui avaient déjà été utilisés à grande échelle sur le front russe le 31 janvier 1915, où 18 000 obus contenant du gaz lacrymogène furent tirés sur les positions de l'armée impériale russe, le long de la Ravka, à l'ouest de Varsovie, lors de la bataille de Bolimov. Cependant, le froid intense bloqua l'action du gaz, et les Russes ne remarquèrent pas sa présence. Auparavant encore, dès août 14, les Français avaient déjà utilisé des grenades chargées de gaz lacrymogène qui n'avaient pas la toxicité suffisante pour être vraiment efficaces, selon les militaires. Le professeur Fritz Haber, en Allemagne, dès août 14, avait proposé à l'état-major allemand d'utiliser les gaz. Il s'était mis au travail pour fabriquer les produits et dès janvier 1915, des milliers de bouteilles de chlore étaient prêtes. On décida que la première attaque aurait lieu dans le secteur d'Ypres, où on enterra des milliers de bonbonnes par groupe de 20. Le 20 avril, le vent soufflait dans la bonne direction. On décida de l'attaque pour le 21. Mais elle dut être remise au lendemain, le 22 avril 1915, à 17h. L'état-major français n'avait-il rien su de toutes ces préparations ? Bien sûr que si, on avait même découvert des bonbonnes lors d'une attaque. Mais ça n'a pas intéressé les gradés, on verrait bien. Les Allemands furent étonnés du brillant résultat. En 3 quarts d'heure, une avancée de 6 kilomètres ouverte par la nappe. On prit l'artillerie et 80 mitrailleuses, personne pour les défendre. Le lendemain, les Français contre-attaquèrent pour reprendre des positions, au prix d'énormes pertes. Comme ça fonctionnait bien, les Allemands continuèrent, perfectionnant la technique, et en janvier 1916, ils essayèrent le phosgène, très avantageux, invisible et 10 fois plus toxique.
Hamlet au front attend la mort, Ophélie joue de l'olifant, le corps y fait des doriforts, mobilise tous ses enfants. Il y a comme un air de fête, les chefs d'État très détendus font une pause à cigarette, un étendard des étendus. Un étendard des étendus, à mitaige bien descendu. 30 cadavres le baril, un début de guerre civile. Un étendard des étendus, pour un prêt et pour un vendu. On comprend toujours après coup que mourir c'est partir beaucoup. Le Havre cadavre de paix, pour un Koweït interrompu. On exécute les suspects, un étendard des étendus. Faut mouiller la peau des drapeaux, pour la concorde des pendus. Les mots me portent le chapeau, un étendard des étendus. Un étendard des étendus, à mitaige bien descendu. 30 cadavres le baril, un début de guerre civile. Un étendard des étendus, pour un prêté, pour un vendu. On comprend toujours après coup que mourir c'est partir beaucoup. On comprend toujours après coup que mourir c'est partir beaucoup. On comprend toujours après coup que mourir c'est partir beaucoup. On comprend toujours après coup que mourir c'est partir. C'est partir.
Le 12 juillet 1917, c'est l'hypérite qui est testé, toujours à Ypres. Cette fois, c'est un gaz vésicant, lui aussi invisible, qui agit par une action lente et profonde dans l'organisme sous forme de brûlure aux yeux, sur la peau et les muqueuses. Et puis, on est malin. Alors, pour empêcher la pose des masques, on envoie d'abord des lacrymogènes. Mais en face, que fait-on ? Eh bien, avec un peu de retard, on s'y met aussi, et on profite des vents dominants qui ont la bonne idée d'aller presque toujours vers les lignes allemandes. Et on s'organise du côté protection, En avril 1915, on n'avait que des mouchoirs imbibés d'eau ou d'urine. En mai, les tampons à hyposulfite sont distribués. Et début 1916, on a des masques complets, comme les Allemands. Et ainsi, la première attaque française par obus à gaz est lancée le 25 septembre 1915 en Champagne. Puis, ils utilisèrent le chlore et le phosgène à Verdun, et finalement, en mai 1918, l'hypérite. Les Anglais ont travaillé surtout la technique de projection, créant à Arras, en mai 1917, un dispositif envoyant des milliers de bouteilles de gaz simultanément par des mortiers mis à feu électriquement. Effet imparable sur l'ennemi. Du coup, les Allemands considèrent qu'avec de telles manières, les Alliés étaient responsables de l'escalade dans la guerre des gaz, oubliant un peu vite qui avait réellement commencé. Le bilan de cette guerre chimique, décevant pour les militaires, inférieur aux prévisions. Tout de même, 1 360 000 intoxiqués, dont 94 000 meurent. La mortalité est de 40% en avril 1915, elle descendra à 6% en 1916 et à 2,5% en 1918. Mais parmi les survivants, beaucoup restèrent aveugles, grands invalides aux poumons irrémédiablement brûlés. Même parmi l'état-major, certains eurent des états d'âme face à la barbarie de la méthode. Cela n'alla pas beaucoup plus loin, sauf pour Madame Haber, l'épouse de l'inventeur des gaz, qui se suicida.
Je chanterai, alléluia, s'il suffisait, bon Dieu, de ça. Je chanterai, alléluia, je chanterai. Et pourquoi pas, s'il suffisait, bon Dieu, de ça. Pour qu'ils entendent enfin les cons, qu'on modernise mon faucon. Pour qu'ils entendent enfin les cons, les guillotins, les brûle-tétons. Pour qu'ils entendent enfin les cons, la chanson de Villon. Je chanterai, alléluia, s'il suffisait, bon Dieu, de ça. Je chanterai, alléluia, je chanterai, et pourquoi pas, s'il suffisait, bon Dieu, de ça. Pour qu'ils arrêtent enfin les cons de jeter la jeune aux cochons. Pour qu'ils arrêtent enfin les cons de jouer à qui perd, nous gagnerons. Pour qu'ils arrêtent enfin les cons de violer Madelon. Je chanterai, alléluia, s'il suffisait, bon Dieu, de ça. Je chanterai, alléluia, je chanterai. Et pourquoi pas, s'il suffisait, bon Dieu, de ça. Pour qu'ils comprennent enfin les cons, qu'on a beau n'être qu'un pigeon. Pour qu'ils comprennent enfin les cons, qu'on peut mourir pour une colombe. Pour qu'ils comprennent enfin les cons, que ça sent bon le houblon. Je chanterai, alléluia, s'il suffisait, bon Dieu, de ça. Je chanterai, alléluia, je chanterai, et pourquoi pas, s'il suffisait, bon Dieu, de ça. Pour qu'il repousse le houblon dans les cieux de François Villon. Pour qu'il repousse le houblon sur le ventre de Jeanneton. Pour qu'il repousse le houblon où sont les chants à Douaumont.
Les Britanniques s'y mirent aussi avec une réussite très mitigée. La première utilisation de gaz par les Britanniques eut lieu lors de la bataille de Loos le 25 septembre 1915. Mais ce fut un désastre. Le chlore, nom de code étoile rouge, fut l'agent utilisé, 140 tonnes stockées dans 5100 bonbonnes. Cependant, à cette occasion, le vent se révéla capricieux et le gaz stagna dans le No Man's Land, voire reflua vers les tranchées britanniques. Cette débâcle fut aggravée par le fait que toutes les bonbonnes ne purent être ouvertes car de mauvais jets de clé avaient été envoyés. Des tirs de représailles allemands touchèrent les bonbonnes non utilisées, libérant encore plus de gaz sur les lignes britanniques. Le chlore présentait des inconvénients auxquels on estima qu'un autre gaz suppléerait. C'était le phosgène, qui fut inventé par un groupe de Français mené par Victor Grignard, invention et production en région lyonnaise, et utilisé pour la première fois en 1915. Incolore et possédant une odeur semblable au foin moisi, il était difficilement décelable, ce qui faisait de lui une arme plus efficace. Bien qu'il fût parfois utilisé seul, il était plus souvent associé à un volume égal de chlore qui aidait le phosgène plus dense à se répandre. Les Alliés appelèrent cette combinaison « étoile blanche » d'après le marquage peint sur les fûts contenant le mélange. Le phosgène était un puissant agent, plus mortel que le chlore. Son principal inconvénient était que les symptômes ne se développaient qu'après 24 heures. Cela signifiait que les victimes restaient capables de combattre pendant cette courte durée. Cela signifiait aussi que les soldats apparemment en forme seraient neutralisés dans les jours suivants. Dernière lettre écrite par le soldat Louis-Joseph Penel du 174e Régiment d'infanterie, 3e bataillon, décédé à l'ambulance 9-21. Les deux lettres qui suivent ont été écrites le même soir, mais sur le désir du mourant, la seconde devait être envoyée 24 heures après la première. 10 septembre 1918. Ma chère Caroline, vous avez dû être bien étonnée en recevant la lettre que j'ai envoyée il y a 3 jours à Antoinette. Je parlais de la vue. Pour le moment, il n'en est plus question. Les gaz m'ont pris à la poitrine, et comme tu sais que j'ai toujours été faible, ils ont pris le dessus. Ce sera long à guérir. Ne vous faites tout de même pas trop de mauvais sang à mon sujet. Si la maladie prend une autre tournure, je vous en aviserai aussitôt. J'ai le plaisir de t'annoncer qu'en récompense à ma conduite, on m'accorde la médaille militaire. Deuxième lettre, septembre 1918, donc à envoyer 24 heures après la première. Ma chère Caroline, les choses se sont passées comme c'était prévu. Ma maladie a eu le dessus. Je meurs. Que cela soit votre consolation à tous. J'ai toujours vécu en bon français et en bon chrétien. Embrasse bien tout le monde de la famille.
La mort provoquée par les gaz était souvent longue et douloureuse. Une dose fatale de phosgène provoquait une respiration haletante et difficile, un visage blême et l'expulsion de 2 litres d'un liquide jaune provenant des poumons chaque heure avant que le malade ne se noie 48 heures plus tard.
Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. un obus à couper par le travers en deux. Pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, étoile tatouée, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. Par Dieu, c'est pour où ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancé de la terre et promis des douleurs. La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs. Vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
Récit du mitrailleur Gabriel Mirabel du 287e régiment d'infanterie. Nous montons en ligne. En arrivant sur une hauteur, le vent nous apporte une odeur que j'ai appris à connaître à Berry-au-Bac, celle de l'hypérite ou gaz moutarde. Je mets aussitôt le masque. Des camarades se moquent de moi, mais bientôt, 1, 2, 10, puis tous se mettent à tousser. Notre capitaine qui marche en tête nous crie « Mettez les masques !» Tout le monde s'exécute au milieu des toux et des cris. Maintenant, c'est la marche à Colin Maillard. On bute sur des obstacles de toutes sortes, car avec le masque, on y voit goutte. Et puis, c'est l'essoufflement et l'obligation de nous arrêter à chaque instant. Au milieu des cris, des plaintes, des « la pause, la pause !» nous arrivons enfin aux carrières d'Audremont. Nous trouvons le sergent, un catalan de la 4e section, qui, parti le matin pour reconnaître le chemin et les emplacements, doit servir de guide à la 6e CM. Mais comme il portait le masque ainsi que nous, car les obus à gaz tombaient de plus en plus, voilà qu'il se perd et ne reconnaît plus son chemin. Rien là d'étonnant, car avec le masque il était impossible de se diriger par cette nuit sans lune. De plus, les masques de 1917 n'étaient pas les masques perfectionnés que l'on nous a donnés vers le commencement de 1918, et l'on étouffait là-dessous. Bientôt, notre courageux guide, de colère, arrache le sien et nous met sur le bon chemin en direction de la ferme d'Audremont. Il allait payer cher son courage. Une fois le boyau trouvé, il voulut remettre son masque, mais la toux l'ayant saisi, il ne pouvait y arriver. Et il toussait, toussait à cracher le sang, et il vomissait à rendre ses poumons et tout ce qu'il avait dans le ventre. Je le vois encore se tordre, se rouler par terre, et toujours cette maudite toux. Et de tous côtés, on entendait les toux et les râles de ceux qui n'en pouvaient plus. Quelqu'un a emmené notre guide au poste de secours, et je ne sais ce qu'il est devenu, mais ce n'est pas difficile à deviner. Nous voilà partis quand même au petit bonheur, personne pour nous guider. Nous étions mélangés au groupe des autres compagnies. On faisait une dizaine de pas, pas plus, puis on s'affalait là où on se trouvait, dans un trou d'obus, sur un tronc d'arbre déchiqueté, au bord d'un vaste entonnoir, n'importe où, pourvu qu'on fût couché. Impossible de résister à la tentation d'enlever le masque, tellement le besoin de respirer une goulée d'air frais était grand. Mais au lieu de l'air frais que je croyais trouver en soulevant légèrement mon masque un petit peu, ce fut une atmosphère empoisonnée que je fis entrer dans ma poitrine. Ce gaz vous brûle les poumons, ainsi du reste que toutes les parties qui se trouvent à l'humidité. Comme je suais beaucoup et étais en nage, j'ai été brûlé au cou, à la poitrine, au front, à la nuque et aux mains. Mais ces brûlures ne devaient apparaître que le lendemain sous la forme de grosses loques, et elles n'étaient pas douloureuses. Après avoir soulevé mon masque, je le remis aussitôt en place, préférant 100 fois s'il le fallait, mourir étouffé faute d'air plutôt que de crever les poumons empoisonnés par ce terrible gaz. On trouvera sans doute que j'ai été bien imprudent, mais les reproches sont faciles pour qui n'a pas passé par cette épreuve. Je crois qu'il y a peu de poilus qui, soumis au supplice de vagues de gaz, aient résisté à la tentation d'enlever ce masque, tant est douloureuse la sensation d'étouffement qu'il fait éprouver.
Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manie. Qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve, on glissera le long de la ligne de feu. Quelque part ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent tomber leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Vous regardez sans voir vos destinées, fiancée de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement, vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
Lyon et sa région n'étaient pas en reste dans cet effort de production de guerre. Et les inconditionnels admirateurs culturels de la villa Gillet seront ravis d'apprendre que Edmond Gillet se lança dans la fabrication du chlore et fit construire en 1916 à Pont-de-Tlay une usine à cette fin. Peut-être que, quitte à baptiser un haut lieu culturel local, on eût pu être mieux inspiré que de choisir un nom de munitionnaire qui plus est fabricant de produits interdits par les conventions internationales. Gagner la guerre par tous les moyens, voilà un bel étendard pour la promotion de la culture d'avant-garde un siècle après. Pendant que, au même moment, à Saint-Fond et à Péage de Roussillon, la Société chimique des usines du Rhône fabriquait de l'hypérite et que la toute jeune Air Liquide se lançait dans la fabrication du phosgène. la région Rhône-Alpes offrait vraiment la panoplie complète. Environ 36 000 tonnes de phosgène furent produites au cours de la guerre sur un total de 190 000 tonnes d'armes chimiques, faisant du phosgène le second composé le plus produit après le chlore, 93 800 tonnes. Production de l'Allemagne, 18 000 tonnes. Production de la France, 15 700 tonnes. Production du Royaume-Uni, 1 400 tonnes. Royaume-Uni qui utilisa également les stocks français. Production des États-Unis, 1 400 tonnes, qui utilisèrent également eux aussi les stocks français. Bien que le phosgène soit moins connu que le gaz moutarde, il fut responsable de 85% des tués par armes chimiques au cours de la Première Guerre mondiale.
Le sang qu'ont versé les hommes dans la plaine et tous les trépassés des causes incertaines ont fait qu'à ce verger ils poussent par centaines la rose et le pommier, aussi la marjolaine. Tous ceux qui ont crié que leur mort était vaine, tous ceux qui ont pleuré le front dans la verveine, tous ceux qui ont soufflé là leur dernière haleine ont fait de ce verger sur la rive Lorraine un cœur tendre où s'aimer quand les saisons reviennent. Et des arsenés qui n'eurent le temps même de dire émerveillés, ce sont tes yeux que j'aime. Toutes ces fiancées dont l'attente fut vaine, ces hommes arrachés à leur noce prochaine, sourit à regarder ce que l'amour amène sur l'herbe du verger quand leur bouche s'étreine. Tous ceux qui ont laissé leurs amours quotidiennes, les membres fracassés, le sang hors des veines, tous ceux qu'on a pleuré lors des guerres anciennes, ceux qu'on a oubliés, les sans noms, les bohèmes, se lèvent pour chanter quand les amants s'en viennent, insouciants, échanger la caresse sereine qui leur fut refusée au nom d'une rengaine. Tout le sang qu'ont versé les hommes dans la plaine et tous les trépassés des causes incertaines ont fait qu'à ce verger, ils poussent par centaines la rose et le pommier, aussi la marjolaine. On fait de ce verger sur la rive Lorraine un creux tendre où s'aimer. Quand les saisons reviennent,
récit du lieutenant Leroy du 59e BCP au mois d'août 1916. Dans la nuit du 20 août, nous sommes relevés du bois d'Avaucourt par des troupes fraîches. Le bombardement redouble de violence. Tout le secteur est couvert d'un brouillard épais de gaz. Celui-ci s'accumule, surtout dans les boyaux et ravins que nous devons suivre. Le masque, trop saturé, est impuissant à nous protéger complètement. Nos poitrines sont ravagées. Oppressés, nous nous dirigeons vers le boyau, à tâtons, sans voir, chacun tenant un bout de capote du camarade qui le précède. Bientôt, des gémissements se font entendre. On me fait passer, on ne suit plus. Beaucoup tombent, épuisés, et ceux qui suivent comme des aveugles passent sur leur corps. Les plus vaillants relèvent ces malheureux et les soutiennent de leur mieux pour les sortir de cet enfer. À deux reprises, dans le ravin de l'Anou, où se termine le boyau, je dois, pour diriger mon peloton, enlever mon masque, dont les lunettes sont couvertes de buée. Retenant ma respiration, je cherche à voir et retrouve enfin le prolongement du boyau, mais je suis pris de violentes nausées et ma poitrine est en feu. Je remets vite le masque et marche pendant quelques instants, soutenu par le chasseur le duc, bientôt lui-même si gravement intoxiqué qu'il tombe et me supplie de le laisser mourir sur place. Je le relève et le soutiens à mon tour, et aussitôt sorti de ce maudit ravin, je laisse le boyau et donne l'ordre de marcher sur la plaine. Nous sommes en terrain découvert, mais qu'importe si nous respirons mieux. Tout l'effectif du bataillon est gazé. Les plus atteints sont évacués. Certains sont devenus aveugles. D'autres, qui sont tombés sur la terre infectée, ont de graves brûlures sur les parties les plus intimes du corps.
À tous les enfants qui sont partis le sac au dos par un matin brumeux d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin, je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus, soudain griffé d'un coup de feu, un monde neuf où sur un corps qui va tomber grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud sous leur bureau en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui vantent ripote dans la vie et comptent leurs écus, à tous ceux-là, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlague, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sur leurs faux plis, sur leurs bajoux, des marques de honte et de boue.
En 1917 apparaît le gaz moutarde. Le gaz le plus connu et peut-être le plus efficace de la Première Guerre mondiale fut le gaz moutarde. Un agent vésican introduit par l'Allemagne en juillet 1917, juste avant la bataille de Passchendaele. Les Allemands identifiaient les fûts de gaz moutarde par la couleur jaune et les fûts de phosgène et de chlore étaient marqués de vert. Ils nommèrent donc le nouveau gaz croix jaune. Les Français l'appelèrent hypérite, d'après la ville d'Ypres. Le gaz moutarde n'était pas un agent réellement mortel, bien qu'à haute dose il le soit. Mais il était utilisé pour harceler et handicaper l'ennemi, tout en polluant le champ de bataille. Le gaz moutarde étant plus lourd que l'air, il stagnait au niveau du sol comme un liquide huileux de couleur jaunâtre. Une fois dans le sol, il restait actif pendant des jours, des semaines, voire des mois, selon les conditions météorologiques. La peau des victimes du gaz moutarde se couvrait de cloques, leurs yeux étaient très irrités et elles commençaient à vomir. Le gaz causait des hémorragies externes et internes et détruisait les tissus pulmonaires. Cela causait des douleurs abominables aux soldats qui se noyaient littéralement du fait des liquides présents dans les bronches. Les patients mettaient généralement 4 à 5 semaines pour mourir. Une infirmière, Vera Brittain, écrivit « Je souhaite que les personnes qui parlent de continuer cette guerre, quel qu'en soit le prix, puissent voir les soldats souffrant du gaz moutarde. De larges cloques jaunâtres, des yeux fermés aux paupières collantes et collées ensemble, se battant pour chaque bouffée d'air, murmurant que leur gorge se fermait et qu'ils savaient qu'ils allaient étouffer. » Le gaz moutarde, contrairement au chlore et au phosgène, n'avait pas besoin d'être inhalé. Une simple exposition cutanée suffisait. Celle-ci provoquait d'énormes cloques. Les muqueuses et les zones moites comme les yeux, le nez, les aisselles ou l'aine étaient particulièrement sensibles. Une exposition provoquait un gonflement de la conjonctive et des paupières, les forçant à se fermer, rendant la victime temporairement aveugle. Les autres symptômes incluaient de violentes migraines, un pouls élevé, de la fièvre et une pneumonie causée par les liquides présents dans les poumons.
Je souhaite que les personnes qui parlent de continuer cette guerre, quel qu'en soit le prix, puissent voir les soldats souffrant du gaz moutarde. De larges cloques jaunâtres, des yeux fermés aux paupières collantes et collées ensemble, se battant pour chaque bouffée d'air, murmurant que leur gorge se fermait et qu'ils savaient qu'il s'allait étouffer.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours, que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne fleurissent les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon air et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke.
Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville et la nuit monte des civils. Remets du rimel à tes cils, Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur.
Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour, que dans ton cœur un dragon plongea son couteau.
La 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 la.
Et leur baiser au loin les suivent.
Émile Sarrazin, engagé à 17 ans. Infirmier brancardier, gazé. Le 8 février 1918. Bien chère maman, je m'empresse aujourd'hui que le calme est revenu de te donner de mes nouvelles qui sont fort bonnes. Je te dis le calme, car hier nous avons eu un marmitage terrible depuis 1h30 jusqu'à 6h du soir. Je n'ai pas encore mes idées bien nettes et tremble encore un peu en t'écrivant. J'ai été chercher sous les obus un pauvre jeune homme qui était criblé d'éclats dans les poumons, le ventre et la cuisse. Il est resté dans le poste de secours 3 heures. J'ai fait mon devoir, mais il n'y avait rien à faire. À 5 heures, il expirait. C'est par rafale de 5 que les obus arrivaient. Ils ont tiré, ces sacrés boches, 450 bombes. Quoiqu'ayant gardé mon sang-froid, j'ai passé une nuit bien agitée. Deux chevaux ont été également tués, un conducteur blessé. Nous n'avons pas mangé hier soir. Tous les vivres ont été enterrés par suite des explosions. Mais aujourd'hui, le calme semble être revenu. Après la pluie, le beau temps. J'ai reçu un éclat d'obus qui m'est passé sur la tête lorsque j'étais à la recherche de mes blessés. À quand la fin ? Je suis sorti quand même indemne de cette fournaise, mais je crois bien que c'est dur, surtout dans ces moments. Ne t'en fais pas à ce sujet. Il n'y a pas de quoi, car aujourd'hui, nous avons fait un repas terrible. Que veux-tu ? C'est la guerre. À bientôt, ma chère maman. Le plaisir de te lire. Embrasse bien pour moi Lucien et Hélène, et pour toi mes meilleurs baisers. Ton fils qui pense bien à toi, Émile. Et surtout ne t'en fais pas.
Le gaz, vite les gars, effarés et à tâtons, coiffant juste à temps les casques malaisés. Mais quelqu'un hurle encore et trébuche et s'effondre, se débattant. Comment liser? Dans le feu ou la chaux. Vaguement par les vitres embuées, l'épaisse lumière verte, comme sous un océan de verre, je le vis se noyer dans tous mes rêves, sous mes yeux impuissants. Il plonge vers moi, se vide à flot, s'étouffe, il se noie.
Les cimetières militaires, pardon, monsieur le surveillant. Les cimetières, pourquoi le terre militaire sont accueillants? Quel que soit le vent, les nuages, les fleurs, y poussent fraîches toujours. Dessus la fleur de l'âge, la fleur de l'âge des tambours. Les cimetières militaires, pardon, monsieur le combattant. Les cimetières, pourquoi le terre militaire sont déroutants? Et le vieux gardien qui arrose les roses vivant à ses pieds dit que ça n'est pas toujours rose que de vivre aux pieds des troupiers. Les cimetières militaires, pardon, monsieur le revenant. Les cimetières, pourquoi le terre militaire sont inconvenants? On dira que je suis coupable, on me traînera dans la boue. De la Normandie en Champagne, mais tant pis, j'irai jusqu'au bout. Les cimetières militaires, pardon, messieurs les braves gens. Dessous la terre cache mes frères, braves gens, soyez indulgents.
Au fil de cette émission, de notre série consacrée à évoquer la guerre de 1914-1918 dans toutes ses malfaisances, vous avez pu entendre les morceaux suivants. Tout d'abord, la diction d'une liste des toxiques chimiques de la guerre produits entre 1915 et 1918 avec les dénominations de l'époque, dit par André Bonhomme, qui a bien voulu intervenir pour dire un certain nombre de textes dans cette émission, qu'il en soit remercié. Et en particulier, ensuite, le premier texte qui était un extrait du livre « Les champs d'honneur » de Jean Rouault. Puis, vous avez pu entendre plusieurs fois des extraits musicaux de la troisième symphonie de Beethoven, le deuxième mouvement, dans l'interprétation de William Furtwängler. Ensuite, vous avez entendu les chansons suivantes, « Les cimetières militaires » de Pierre Louqui, musique de Jean Bernard dans l'interprétation de Pierre Louqui. Puis c'était Pascal Mathieu qui, sur ses paroles et sur la musique de Louis Arty, interprétait « Un étendard désétendu ». Ensuite, Maurice Fanon interprétait sa composition « Alléluia ». Puis vous avez entendu deux versions du texte de Louis Aragon mis en musique par Léo Ferré, « Tu n'en reviendras pas ». Une première par Marc Augeret et une seconde par Béatrice Arnac. Ensuite, c'est Barbara qui interprétait sa composition « Le verger en Lorraine ». Puis Catherine Sauvage, sur des paroles de Boris Vian et musique de Claude Vance, interprétait « À tous les enfants ». Ensuite, c'est Serge et Sonia qui, sur des paroles de Louis Aragon, musique de Léo Ferré, interprétait « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Et enfin, une deuxième version des cimetières militaires dans l'interprétation, cette fois, de Juliette Gréco. Vous avez aussi pu entendre divers extraits de lettres et de dernières lettres de combattants, des documents historiques authentiques, bien sûr. En conclusion, est-il nécessaire de rappeler combien l'utilisation des gaz dans les guerres, qui ont suivi jusqu'à nos jours encore, a été constante avec des déclinaisons diverses, allant jusqu'à la guerre bactériologique? Mais ce serait un autre sujet. Pour ce soir, l'horreur est suffisante. Bonsoir.
Thank you.